Il y avait un héros nommé Éaque, dont on disait qu'il était le plus pieux de tous les Grecs. Il était le petit-fils du dieu fleuve Asopos. On raconte qu'Asopos avait eu une fille, Égine, comme de nombreux dieux fleuves en ont. Et il chérissait sa fille plus que tout. De la voir aller partout, alors que lui était dans son lit, ça l'en avait fait sortir. Il voulait accompagner sa fille partout où elle allait. Et on dit que la nuit, il l'entourait de ses bras de fleuve. Il faisait une île autour d'elle pour qu'elle puisse y dormir en sécurité. On dit qu'Égine était particulièrement belle et que sa beauté avait attiré le regard de Zeus. Et toute l'ardeur que mettait Asopos à protéger sa fille n'avait fait qu'amplifier le désir de Zeus. On dit qu'une nuit, alors qu'elle dormait sur une île créée par les bras d'Asopos, Zeus s'est changé en aigle. Et en aigle, il est descendu jusqu'à elle. En aigle, il l'a prise entre ses serres et il l'a emmenée au loin, dans la mer, sur une petite île. On dit que quand Asopos s'est réveillé, il a cherché sa fille partout. Il a hurlé, il a crié, il a fouillé, il a interrogé, et finalement, il a trouvé celui qui avait tout vu. Sisyphe, le roi de Corinthe. Sisyphe, le fondateur de la ville de Corinthe. Et Sisyphe lui a dit: Mais bien sûr, je peux te dire où se trouve ta fille et celui qui l'a enlevée. Mais en échange, je ne demande qu'une chose. Je voudrais que tu me donnes une source pour abreuver cette ville que je viens de fonder et qui sans elle ne pourra pas se développer. Asopos a fait jaillir une source, sans rien dire en réponse, et il a attendu la suite. Sisyphe a souri. Il lui a désigné l'endroit, la petite île où se trouvait sa fille, et il lui a dit que c'était Zeus qui l'avait enlevée. Asopos, en entendant le nom de Zeus, aurait pu s'arrêter là, mais sa colère était si grande qu'il s'est rendu immédiatement sur place, dans l'île. Et comme c'était la nuit, la belle Égine était endormie. Et Zeus était paisiblement installé à ses côtés, n'imaginant pas qu'on puisse venir le trouver. Asopos, tout fleuve qu'il était, avait franchi le bras de mer qui séparait le continent de la petite île. Il s'était approché sans bruit, puis il s'était dressé face à Zeus et il lui avait dit: Comment as-tu osé? Ma fille unique, ma seule fille, tu vas payer! Zeus s'était relevé. De toute sa grandeur de Dieu, il avait regardé Asopos et lui avait dit: Comment toi tu as osé? Comment tu as pu croire que moi j'allais payer? C'est toi qui vas payer. Tu ne pourras plus jamais sortir de ton lit. Tu resteras comme les autres fleuves. Puis il a pris son foudre. Et il a foudroyé Asopos. Et les Grecs disent qu'encore aujourd'hui, on trouve dans le lit du fleuve des charbons, signe de la foudre qui s'est abattue. Zeus aussi a châtié Sisyphe, mais ça, c'est une autre histoire. Puis Zeus est retourné auprès de la belle qui ne s'était doutée de rien. Il est resté avec elle, encore et encore, et quand il est parti, elle attendait un enfant de lui. Elle est restée dans l'île tant qu'elle était enceinte, mais quand elle a eu accouché du bébé, elle l'a abandonné là, sur l'île. Certains disent qu'elle est allée retrouver son père. D'autres disent qu'elle a préféré courir le monde, enfin libérée de lui. Quoi qu'il en soit, le petit a grandi, là, dans l'île, seul. Mais Zeus veillait sur lui. Pour qu'il ne soit pas trop perdu, Il avait donné le nom de sa mère à l'île qui encore aujourd'hui s'appelle l'île d'Égine. Puis il lui a envoyé des nymphes pour l'élever, pour le nourrir, pour le vêtir, pour l'éduquer. Il a fait de lui le roi de l'île. Mais quand Éaque est arrivé à l'âge adulte, il a réalisé qu'il n'était roi de personne. Son île était belle, son île était grande, il pouvait s'y promener tout le jour durant, mais tout le jour durant, il s'y promenait sans rencontrer personne. Il y avait bien quelques bêtes, il y avait surtout des fourmis par milliers. Alors un jour, Éaque a demandé à Zeus de lui faire un peuple, et il a dit: c'est simple, tu n'as qu'à transformer toutes les fourmis qui se trouvent là en humains. Ils deviendront mon peuple. Et Zeus l'a accordé. Et ce peuple est devenu le peuple des Myrmidons, les hommes fourmis. Et on dit qu'il a régné sur ce peuple de façon si juste, si sage. On dit que ses jugements étaient toujours si précis qu'on venait de loin pour lui poser toutes sortes de questions, et que même les dieux venaient s'en référer à lui. On dit que quand Laomédon, le roi de Troie, a fait appel aux dieux pour construire les remparts de sa ville, ce sont Poséidon, Apollon et Éaque qui sont venus le construire. On dit que sa renommée a été telle que même le sage Chiron, l'immortel centaure, a voulu le connaître. Il est venu le trouver en voyage. Ils ont discuté longuement, longtemps, et Chiron est reparti heureux et comblé. Mais on dit aussi que Chiron n'était pas venu seul, qu'il était venu avec sa fille, la belle Endéis, et qu'entre deux conversations que Chiron avait avec Éaque, Éaque avait réussi à charmer la belle. Ou peut-être était-ce l'inverse? Quoi qu'il en soit, quand Chiron est reparti, Endéis est restée. Ensemble, ils ont eu deux beaux enfants, Pélée et Télamon. Pélée et Télamon ont grandi ensemble comme deux frères qui avaient tout ce qu'il fallait pour bien s'entendre. Ils étaient beaux. Ils étaient vigoureux, ils étaient sages et intelligents, ils avaient tout ce qu'il leur fallait pour devenir de grands héros, Pélée et Télamon. Mais alors qu'ils étaient encore jeunes, il est arrivé à Éaque une drôle d'aventure. Un jour qu'il se promenait dans son pays, qu'il allait jusque sur la plage qui se trouvait non loin de son palais, il y a vu une femme incroyable. Elle était tellement magnifique. Il faut dire que ce n'était pas simplement une femme, c'était une déesse. C'était une fille du vieux dieu de la mer, Néré. C'était une Néréide. C'était la belle Psamathée. Comme toutes ses sœurs, elle travaillait à fabriquer les vagues de la mer. Et comme toutes ses sœurs, il lui arrivait d'aller se reposer parfois sur un rivage. Elle avait choisi le rivage d'Égine. Quand Éaque l'a vue, il l'a trouvée tellement belle, il n'a pas pu résister. Le sang de Zeus a bouillonné en lui, et comme son père, il l'a voulu. Cette femme, immédiatement, alors il s'est précipité sur elle. Elle, qui dormait, s'est réveillée d'un coup. Elle a vu cet homme qui lui sautait dessus, elle a essayé de s'enfuir, mais de ses bras puissants, il l'a maintenue. Comme toutes les filles de Néré, elle pouvait se transformer. Alors, elle s'est aussitôt changée en phoque, phoque puissant, phoque glissant, qui, en se contorsionnant, a tout fait pour se libérer de l'emprise d'Éaque. Mais elle a eu beau se contorsionner dans un sens et dans l'autre. Elle a eu beau sauter, pousser, encore et encore, elle n'a pas réussi à s'échapper. Et elle a dû reprendre sa forme de femme. Alors Éaque en a profité. Lui, le plus sage de tous les Grecs, le plus pieux de tous, il a profité de Psamathée, il a abusé d'elle, et quand enfin il a été contenté, il s'est allongé sur le sable heureux. Elle s'est laissée glisser dans la mer, et plus jamais elle n'est revenue à ce rivage. Enfin, presque plus jamais. Car quelques mois plus tard, elle est venue y déposer un bébé. Le bébé qui était né de ses amours violentes. Éaque a recueilli l'enfant, et en souvenir de sa mère, il l'a nommé Phocos. Phocos était plus jeune que Pélée et Télamon, et pourtant, il était déjà plus vigoureux, plus fort. Il avait une peau tellement lisse, il avait un regard dans lequel on avait l'impression de pouvoir plonger, dans lequel on avait l'impression de voir toute la mer. Éaque était fou de cet enfant. Il ne pensait qu'à lui. Et les deux autres se sont sentis délaissés. Et les deux autres n'ont pas compris pourquoi leur père s'occupait de cet enfant sorti de nulle part, de cet enfant qui n'avait pas de parents. Alors un jour, alors qu'ils jouaient, les deux grands étaient presque adultes, le jeune était encore adolescent. Alors qu'ils s'entraînaient pour les jeux, à la course, à la lutte, au lancer, Télamon a regardé son frère Pélée. Il a pris le disque, il l'a tourné sur lui-même et il a projeté le disque dans la tête de son frère Phocos. Puis, les jeunes gens ont enterré le cadavre au pied d'un buisson odorant. Ils l'ont enterré et ils sont rentrés comme si de rien n'était. Et le soir, le père a cherché son fils partout. Il a cherché, il a appelé, il a crié, il a hurlé. Il ne l'a pas trouvé. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à chercher encore et encore, à voir si quelqu'un ne l'avait pas vu. Comme autrefois, son grand-père Asopos avait cherché sa mère Égine. Et c'est un buisson qui a fini par avoir pitié de lui et à lui dire « Il est là, il est là, il est là. » Éaque a creusé, il a trouvé son enfant. Le disque était encore enfoncé dans son crâne. Il est allé voir ses deux fils. « C'est vous qui avez fait ça? » Ils ont eu beau démentir. Il a vu dans leur regard que c'était eux qui l'avaient fait. Alors lui, Éaque, le plus juste, le plus pieux de tous les Grecs, les a regardés et leur a dit « Je ne pourrais pas accepter un tel meurtre dans ma maison. Partez, fuyez et ne revenez jamais. Je vous bannis, je vous renie. » Et on dit que c'est par ce geste de bannissement de ses propres enfants, qu'Éaque a parfait sa réputation de juge, insensible même aux liens de parenté, de juge impartial. On dit que c'est grâce à cela que, quand il est mort, il est descendu aux enfers et qu'il y a trouvé une place de juge, à côté du roi de Crète Minos et de son frère Rhadamante.